Avant tout, j'aimerais vous apporter les remerciements de tous nos frères et sœurs pour qui vous priez. Les uns après les autres que j'ai eu l'occasion ou de contacter ou tout simplement déjà de discuter avec eux avant, ils m'ont chargé de vous remercier pour vos prières. Il y a des moments difficiles dans notre vie où ô combien il est important de savoir qu'on n'est pas seul. Amen. Donc surtout, n'arrêtez pas. Continuez de prier. Dieu est fidèle et bon. Et je crois qu'encore ce matin, le Seigneur veut nous encourager à marcher dans sa fidélité et à marcher dans ses voies. Amen. On va lire ensemble un texte qui se trouve en 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 1 au verset 13. Et le titre du message de ce matin, c'est « Le passé qui nous enseigne ». 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 au verset 13. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés au Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez donc pas idolâtres, comme certains d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Nous ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Amen. L'apôtre Paul écrit à Corinthe, à l'église de Corinthiens, parce que l'église, elle avait grandi, l'église, elle avait augmenté en nombre. Et vous savez, quand une église, elle grandit, on a vite besoin de redonner des bases. On reprêche sur certaines thématiques, peut-être les plus anciens se disent « Ah, ça me rappelle les premiers temps de ma conversion. Ça me rappelle ce point, cet autre point. » Et je pense que c'est important pour nous de renouveler dans notre cœur, dans nos pensées, toute la parole. Mais l'apôtre Paul se rend compte aussi que l'église des Corinthiens pouvait courir un risque. Et pour nous, puisque le texte il nous dit que nous sommes bien plus proches de la fin, ces mêmes risques sont présents. Et nous devons en tenir compte. Alors ce matin, j'aimerais faire juste avec chacun d'entre nous un petit rappel pour ceux qui déjà avaient eu l'occasion de lire ces textes, mais aussi aller un peu plus en profondeur, peut-être pour ceux qui, ces dernières années, se sont rajoutés au corps de Christ, et qui se posent certaines questions, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Parfois, certains me disent, vous savez, frère, lire l'Ancien Testament, c'est difficile. C'est vrai ou pas? Surtout les généalogies. Il y a des noms qui ne sont pas simples à prononcer. Moi, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pauvres petits, pour qu'on leur donne un prénom comme ça compliqué? Mais bon. Ça, c'est entre les parents et les enfants. Mais en ce qui nous concerne, nous avons des choses à retirer de ce texte. Et la première chose, c'est que Christ est notre rocher spirituel. Il est le rocher des siècles, dit la parole de Dieu. Le peuple d'Israël a été certes amené par un homme dans la qualité, dans la personne de Moïse, à sortir parce qu'ils avaient besoin de vivre véritablement une sortie de l'Égypte. Et beaucoup ont saisi cette occasion, ont fait le choix de marcher avec le peuple, de suivre ce Moïse qui quand même, pendant un certain temps, il était quand même la cible des critiques de tout le monde. Hein ? Encore aujourd'hui, quand quelque chose vient un peu bouleverser notre habitude, la première tendance est de le critiquer. Après, avec le temps, on se dit, bon, c'est pas trop mal. Les éloges, c'est après qu'il est mort. Quand quelqu'un est mort, on n'entend que les éloges. Hein, c'était quand même un bon homme. Il avait ça de gentil. Mais pendant toute sa vie, peut-être la personne, elle a entendu le pire et jamais le mieux. Mais dans le texte que l'apôtre Paul nous écrit et qui écrit à l'Église, il rappelle certaines choses qui doivent être pour nous aussi importantes à considérer. C'est que, il dit, dans ce voyage, dans cette sortie du monde, dans cette sortie d'Égypte, ils sont passés par la mer Rouge et qui a fait fonction un peu comme le baptême. Ils se sont trouvés sous la nuée. Ils sont trouvés à passer la mer, ils ont tous été, il dit le texte, baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Il y a eu quelque chose qui a fait que le peuple tout entier, en un seul coup, a vécu ce moment. Quelle journée de baptême! Mais si vous vous rappelez bien, tous n'ont pas bien supporté ce baptême. Ceux qui étaient restés dans le monde, l'eau s'est refermée sur eux. Alors, on pourrait se dire, quel bonheur, quelle joie, ce peuple a pu vivre quelque chose d'incroyable. Quand on lit ces textes, on se dit, Seigneur, nous aussi, on aimerait voir une chose si grandiose, la mer Rouge qui s'ouvre devant nous, pouvoir passer le pied sec. C'est vrai ou pas? Pourquoi pas? Mais en regardant et en lisant ce texte, je me rends compte que ce n'est pas forcément ce qu'on voit qui va faire de nous des hommes et des femmes de foi, mais ce qu'on croit. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'il dit le texte, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était le Christ. Quelle image incroyable! Christ qui se donne pour, finalement, épancher la soif de son peuple. Est-ce que vous croyez qu'encore aujourd'hui le Seigneur est là pour épancher notre soif? Est-ce que nous sommes convaincus que c'est le Seigneur encore ce matin qui nous invite à boire de cette eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle? C'est l'invitation du Christ, c'est ce que Christ seul peut faire. Il est question pour nous de ne pas chercher d'autres sources que celle qui nous a été donnée, à savoir Jésus-Christ. Quelle grâce! Quel bonheur! Mais en verset 5, il y a quelque chose qui bouleverse ce premier point, qui dit « mais ». Mais. Et c'est sur ce « mais » qu'il est question pour nous encore de réfléchir ce matin. Il est question pour nous finalement de dire « Seigneur, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?» Il dit le texte « mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Et en lisant ce texte, je me disais, Seigneur, c'est vite fait d'avoir des pensées, d'avoir des désirs qui finalement, ils nous éloignent de toi. Le bien-être est quelque chose qui peut facilement nous faire perdre, non? Et on pourrait dire, mais la pauvreté aussi, mon frère. Quand on est pauvre, on se dit pourquoi Dieu n'intervient pas, pourquoi Dieu me donne pas ceci, pourquoi Dieu me donne pas cela. Toute occasion peut être utilisée pour se mettre en rébellion envers Dieu, voire même avoir des propos pas toujours pesés, mesurés et justes envers Dieu, et penser que Dieu, il devrait, il doit. Un jour, quelqu'un m'a dit « Dieu doit ». Bon, Dieu doit. Et alors, à la fin de son discours, je lui dis, mais maintenant, si on prenait le temps de lire tout ce que l'homme doit, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Notre droit s'arrête où le droit des autres commence. Et Dieu a des droits. Et ces droits nous incluent, nous, comme personnes, comme hommes, comme femmes, à pouvoir finalement aussi accomplir ce qui nous revient. Et ce texte nous met en face à quatre réalités, quatre dangers, je dirais peut-être quatre planches savonnées, qui pourraient nous faire tomber. La première, c'est au verset 7. L'apôtre Paul, il le dira comme ça, « Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Si on lit juste le texte de Corinthiens, on se dit, bon, alors est-ce que s'amuser, c'est quelque chose de mauvais? Non, c'est la manière. Et c'est le sens qu'on peut prendre dans les choses. Nombre chapitre 14, versets 30 à 35, nous relate justement qu'est-ce qui s'est passé. Dieu dira, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais promis de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Chefnoun, et Josué, fils de Noun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans ce désert, et vos fils seront nomades 40 années dans le désert et porteront le poids de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer le pays, c'est-à-dire 40 jours. Vous porterez le poids de vos fautes 40 années, une année pour chaque jour, et vous connaîtrez ma disgrâce. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette communauté méchante qui s'est liguée contre moi. Ils tomberont tous dans le désert, ils y mourront. Amen. La parole de Dieu nous montre qu'il y a des précédents. Et vous savez, quand on prend le droit nous fait comprendre que quand il y a un précédent, cela fait loi. N'est-ce pas? Je me trompe? Dans ce que Dieu est en train de dire, il attire l'attention sur le fait qu'il s'était laissé attirés par les désirs. Ils étaient devenus idolâtres parce que leur propre désir avait pris la place de ceux qui étaient la place de Dieu. Alors on pourrait se dire, oui, mais ça, c'était eux. Combien de choses aujourd'hui pourraient attirer nos désirs loin de Dieu? Ne croyons pas que nous sommes plus protégés ou immunisés aux péchés qu'ils ont pu l'être. Parce qu'on pourrait se dire, oui, c'est vrai, aujourd'hui, on est tenté de tous les côtés. Vous savez, parfois, on a le pour et le contre. Vous avez ceux qui disent, on était avant, il n'y avait pas tous ces problèmes, il n'y avait pas tout ce qui attirait comme ça. On était préservés. Ils étaient dans le désert. Quelle tentation peut-il y avoir dans le désert? Dites-moi. À mon avis, il n'y avait pas de réseau Internet. Si on peut allumer la clim, s'il vous plaît. À mon avis, il n'y avait pas tout ce qu'aujourd'hui on peut voir à droite, à gauche. Ils auraient dû être préservés d'un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui un problème pour nous. Des fois, on est obligé à fermer les yeux ou à tourner la tête. Non ? J'espère qu'on le fasse. Parce que si on garde nos yeux fixés sur ce qui nous fait tomber, frères et sœurs, on tombe. C'est pas le premier regard, parce que comme dit, mais c'est quand on y revient, on y reste. Hein? David, quand il a vu Bercheba depuis la terrasse de son palais, il se serait retourné en disant, mon palais est tellement grand, je peux aller me promener de l'autre côté. Il se serait épargné pas mal de problèmes. Mais le problème, c'est qu'il est resté avec ses regards et finalement, ses regards ont amené son cœur à aspirer à quelque chose qui n'était pas à lui. C'est quelque chose dont il n'aurait pas dû s'approcher. Ou quelqu'un. Et il y a plein de choses que le Seigneur aimerait que nous ayons cette même attitude de dire, Seigneur, je me détourne de ce qui est péché. Paul dira à Timothée, fuis la tentation. Pourtant, Timothée, il était pasteur. Waouh ! C'était quoi ce pasteur qu'il faut lui donner un tel conseil ? Bien, un pasteur reste un homme. Et chacun d'entre nous, nous sommes aussi tentés d'une manière ou d'une autre. Et nous devons veiller chacun à notre âme, quelle qu'il soit la charge que nous avons. Parce que l'ennemi aimerait nous voir tomber les uns après les autres comme des mouches. Et croyez-moi, il met tout ce qu'il peut en œuvre. Mais c'est le fait d'être ensemble dans la présence du Seigneur, de prier les uns pour les autres, de continuellement nous approcher de Dieu, chercher la sainteté, chercher la sanctification, chercher la volonté de Dieu, que finalement nous avons les forces pour résister à l'ennemi. Et la parole de Dieu dit « Résistez-lui et il fuira loin de vous ». Amen. Mais là, le peuple, il n'a pas résisté. Ils se sont donnés finalement à chercher quelque chose qui les a attirés loin du regard de Dieu. Et Dieu dira, voilà, vous avez eu 40 jours pour examiner le pays, vous aurez 40 ans de punition. Waouh ! Un jour, un an. Je serais tenté de dire, ne tardons pas un jour de plus. Si nous nous sommes égarés, ne tardons pas un jour de plus. Si vous avez des doutes sur ce qui pourrait devenir un objet d'idolâtrie, on peut toujours en discuter. Mais faites une analyse de tout ce qui pourrait prendre la place de Dieu, tout ce qui pourrait voler le temps que vous devez à Dieu. Et je vous le dis clairement, que vous devez à Dieu, que nous devons à Dieu. Oui, mais c'est jour le dimanche. D'accord. Moi, je suis pas sûr qu'on serait content que Dieu nous donne à manger que le dimanche. Que Dieu nous guérisse que le dimanche. Que Dieu nous écoute que le dimanche. On dit, Seigneur, mais il y a 7 jours. Eh oui, justement. Chaque jour, Dieu attend d'avoir un cœur à cœur avec toi. Chaque jour. Et lorsque le Seigneur nous invite à être ensemble, c'est aussi une occasion pour chacun d'entre nous, pas seulement de penser à nous-mêmes, mais de penser aussi aux autres. La deuxième chose, au verset 8, il dira « Ne vous livrez pas à l'inconduite comme certains d'entre eux se livrèrent de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. » Waouh ! 40 ans, premier coup près. 23 000, deuxième action. On lit le texte en Nombre chapitre 25, il dit « Israël demeurait à Kittim et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'accoupla avec Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple et fais-les prendre devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont accouplés à Baal Péor. Et voici qu'un homme des Israélites vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute la communauté des Israélites, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Phinéas, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de la communauté et prit une lance dans la main. Il suivit l'homme d'Israël à l'intérieur de sa tente et le perça tous les deux, l'homme d'Israël ainsi que la femme au bas ventre, et la plaie s'arrêta parmi les Israélites. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Amen. On lit pas souvent ces textes. Hein. On passe vite. Il y a une certaine gêne qui parfois peut s'installer et nous dire « Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon d'être dans la grâce !» Mais Paul, il est en train de prêcher à l'église de Corinthiens, un peuple qui était sous la grâce comme nous. Et il est en train de leur rappeler que certaines choses, elles restent un péché devant Dieu. Ce n'est pas parce que la loi en parlait que la grâce, il les a effacées. La grâce nous a été accordée pour le pardon de nos âmes, certes, mais pas pour couvrir nos attitudes, nos comportements déplacés. Le peuple s'était donné finalement à des réjouissances qui étaient déplacées devant l'Éternel. Le peuple s'était donné finalement à des relations qui étaient déplacées devant l'Éternel. Le peuple avait oublié ce qui devait être un peuple qui était consacré à l'Éternel. Encore aujourd'hui, et regardons dans notre cœur, dans notre vie personnelle, est-ce que je reste cet homme ou cette femme consacré à l'Éternel ? Qu'est-ce que ça veut dire consacré à l'Éternel ? Donner. Si je suis donné à Christ, Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À ce titre, l'apôtre Paul leur dit, mais vous vous êtes donné à Christ. Le jour de ton baptême, mon frère, ma sœur, tu t'es donné à Jésus-Christ. Oui. Moi, je veille toujours, quand je baptise quelqu'un, que j'ai pu vraiment le mouiller complet. Qu'il n'y ait pas un point de faiblesse qui reste, vous savez, comme le talon d'Achille. Hein ? Que le Seigneur puisse nous couvrir complètement, frères et sœurs. Vous pouvez dire, ouais, mais pasteur, non. Ne croyons pas, parce que parfois, il y a des parties de notre vie qui ne sont pas mortes. Il y a encore des parties de notre vie qui ressuscitent très vite. Quand on est prêt à se mettre sur l'autel du sacrifice, il y en a qui partent aussi vite qu'ils voient le couteau arriver. Hein. Ils disent, Seigneur, il faut aujourd'hui que je sacrifie telle part de ma vie, Seigneur, mais tu comprends les pressions extérieures, le monde, la réussite. La véritable réussite est en Jésus-Christ. C'est pas ici-bas qu'on va mesurer notre réussite. C'est quand on sera devant le Seigneur. C'est là qu'on doit entendre ce message merveilleux. Rentre. Bon. Ah, amen. Bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. C'est ça le message qu'on a besoin d'entendre, n'est-ce pas ? C'est ce que notre cœur doit désirer. Alors, on pourrait se dire, mais ici-bas, certes, ici-bas, nous avons besoin de travailler, nous avons besoin de vivre, nous avons besoin, la parole de Dieu nous encourage à travailler. Dit d'ailleurs que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est clair, net et précis. D'accord ? Mais la parole de Dieu, elle nous dit aussi de nous faire un trésor dans le ciel. Là où la teigne, la rouille ne peuvent pas y toucher. Alors, où est ton trésor, mon frère ? Hein ? On a un dicton en Italie, et c'est plutôt un patois calabré, mais je vais vous le traduire en français, comme ça il est compréhensible. Celui qui a beaucoup d'argent, il compte tout le temps. Celui qui a une jolie femme, il chante tout le temps. Il y en a qui chantent et qui comptent. Mais la réalité, c'est que tout ce que nous avons ici-bas restera ici-bas. Et si on arrivait devant le Seigneur les mains vides et plus rien à chanter ? Si vous regardez bien dans l'histoire de ce mariage, de ces noces, où le maître de la maison avait invité plein de monde et ils ne sont pas venus, et il a dit à ses serviteurs, allez chercher quelqu'un, allez chercher les gens dans les croisées des chemins. Vous vous rappelez cette histoire ? Il y en a un qui est rentré, qui n'était pas habillé avec les habits des noces. Vous vous rappelez ? Et est-ce que vous avez fait attention qu'il ne dira rien ? Il resta muet. Il n'y avait plus rien dans ses mains. Le salut ne s'achète pas. Et il n'avait plus rien à dire. Parce que sa situation était indéfendable. Alors que Dieu nous aide, frères et sœurs, nous aussi, à faire attention à ne pas tomber, à ne pas nous laisser avoir par des choses qui pourraient finalement nous atteindre. Troisième chose qui est dite, verset 9, « Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux, qui périrent par les serpents. » Nombre chapitre 21, versets 5 à 9. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Il parlait de la manne. Hein. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aurait été mordu et le contemplera conservera la vie. » Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Amen. Tentez Dieu. Parfois, on ne se rend pas compte de la portée de nos mots. On pourrait se dire, mais en quoi ils ont tenté Dieu ? En méprisant la parole de Dieu. En méprisant la nature du message de Dieu. En méprisant, dans le cas de Moïse, le messager que Dieu avait choisi. Je vous disais tout à l'heure, quand on voit la vie de Moïse, le pauvre, pendant 40 ans qu'il a été à la tête de ce peuple, ça n'a pas été des vacances. Hein. Je peux comprendre qu'il avait déjà saisi cela quand au début Dieu l'appelle et lui dit « Non, mais tu vois, moi j'ai un problème, je ne sais pas bien parler, on voit quelqu'un d'autre. » Il avait déjà dû sentir le vent venir, non ? Mais une fois que Moïse est mort, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont gardé ce moment de souffrance, de pleurs pendant plusieurs jours. Il pleurait Moïse. À la fin, il était bon Moïse. Alors c'est vrai qu'on se bonifie avec le temps, mais néanmoins les positions que Moïse a pu prendre parce que Dieu lui demandait de les prendre n'étaient pas toujours celles que le peuple attendait et que le peuple voulait. Et pourtant, c'était ce que Dieu désirait. Dans ce texte, on voit qu'ils ont tenté Dieu parce qu'ils ont considéré sa nourriture comme une nourriture méprisable. Qu'est-ce qu'est mépriser la parole de Dieu ? À votre avis, comment on méprise la parole de Dieu ? Ah, voilà. Par un manque de conformité de notre vie aux règles que Dieu nous donne. Ça veut dire, je dis, c'est bien, c'est gentil, mais c'est pas pour moi. Alors, vous imaginez un jour quelqu'un qui se présente devant un juge. Il est accusé d'un certain nombre de problèmes. Et pour seule défense, il a, je ne me sens pas concerné par vos lois. Il y en a qui ont tenté le coup. Et le juge leur a dit, vous vous sentirez concerné par nos prisons. Ce que Dieu va faire là, c'est va dire au peuple, attention, vous avez méprisé le pain qui descend du ciel. Ils voulaient quoi ? L'écaille. Et ils en ont eu des cailles. Hein. Quand on regarde la parole de Dieu, moi je crois que Dieu sait ce dont nous avons vraiment besoin. Et je crois qu'encore aujourd'hui, le Seigneur voudrait continuer à nourrir son peuple de la bonne nourriture du ciel. Mais nous, parfois, on cherche la nourriture qui est facile et la nourriture qui nous rappelle certains souvenirs, qui nous rappelle certains parfums, qui nous rappelle même certains, comment dire, le goût de notre vie passée. Je ne sais pas vous, mais quand on va normalement chez les parents, il y a des odeurs qui nous rappellent notre enfance, non ? Oui ou non ? Hein ? Quand on va chez maman et qu'elle nous a préparé quelque chose, le repas qu'on aime, parce que c'est toujours comme ça. Hein ? Vous rentrez, vous dites, oh là là, j'ai rajeuni d'un coup, je me rappelle, maman, elle faisait ça quand j'étais gamin. Hein ? Et on s'attache au passé. Et ils s'étaient tellement attachés au passé que finalement l'Égypte n'était pas sortie de leur cœur. Ils désiraient ce que l'Égypte, entre guillemets, pouvait leur offrir. Ils avaient oublié ce qu'ils mangeaient vraiment aussi en Égypte. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas regarder en arrière dans le sens de vouloir vivre dans le souvenir du passé. Mais dans le cas présent ce matin, le passé doit nous rappeler des leçons pour nous permettre de mieux marcher au présent et de regarder dans la bonne direction pour l'avenir. Et le texte de la parole de Dieu nous rappelle aussi quelque chose d'important. Verset 10, il va leur dire « ne murmurez pas ». Waouh ! Un petit murmure. Je te le dis, mais tu dis rien à personne. C'est entre toi et moi. C'est pas bien le message de ce matin. Ah, mais bon, allez. Ne murmurez pas. Ce n'était pas forcément des discours faits à haute voix. Hein. Mais si Dieu l'a entendu, ça veut dire que Dieu entend le moindre murmure. C'est que Dieu entend et sait entendre la moindre pensée. Et au verset 10, il écrit « Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. » Il y a un précédent qui établit une règle qui est pour l'avenir, qui nous concerne. « Ne murmurez pas, » il dit le texte. Si on faisait la lecture de ce qui s'est produit dans le livre des Nombres, chapitre 17, les versets 5 à 15, nous voyons tout de suite la manière où le peuple s'était mis à murmurer. Vous avez un cas, celui de Myriam. Vous savez qui était Myriam dans la parole de Dieu ? Vous la connaissiez ? La sœur de Moïse ? Vous l'avez rencontrée ? Non ? Alors, je vous raconte ce qui s'est passé. Myriam, elle voit son petit frère Moïse. Je vous rappelle qu'elle avait suivi Moïse lorsqu'il avait été mis sur le Nil, hein, dans le petit couffin bien calfeutré. C'est elle qui finalement va dire à la fille de Pharaon, si tu cherches quelqu'un qui puisse le nourrir, je connais une femme. Hein, elle va appeler sa mère. Et finalement, la fille de Pharaon va payer la maman de Moïse pour qu'elle prenne soin de lui. Et là, c'est le début des allocations familiales. C'était un début. C'est pas de hier. C'est du temps de Moïse. D'accord ? Donc, Myriam, le jour où elle voit Moïse revenir en disant « Dieu m'a parlé ». Ok, très bien. Mais dans son cœur, il y a une forme d'orgueil qui se place et qui un jour l'amène à dire « Mais Dieu parle par Moïse, mais il parle aussi par moi et toi, Aaron. » Elle parle à son frère, les petits murmures, doux et légers. Et là, Dieu frappe Myriam d'une lèpre blanche. Si vous regardez bien le texte, la parole de Dieu nous dit que Myriam était couverte de la lèpre et Aaron dira à Moïse « Prie l'Éternel, demande-lui qu'il arrête. Moïse le fera, Dieu arrêtera. Myriam devra attendre le temps de la purification hors du camp. Et tout le peuple d'Israël a dû attendre que Myriam soit purifiée pour reprendre la marche. Tout cela nous enseigne que nos murmures, nos paroles, nos actes, nos actions, voire même nos punitions, parfois deviennent un obstacle pour que le peuple de Dieu avance. Et qu'à cela, Dieu nous attire l'attention dans nos paroles, dans nos... parce qu'on dit « Seigneur, reviens, reviens bientôt, Seigneur !» Mais si on entendait tous les murmures qu'il peut y avoir parfois, et qui finalement sont un empêchement, parce que Dieu fait preuve de grâce, fait preuve de bonté, de miséricorde. Mais comme le texte nous dit « Mais tous ne sont pas rentrés », peut-être qu'un jour on sera étonné, hein. Tous ne seront pas enlevés. Ah non, pasteur, vous ne pouvez pas dire ceci. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il y a d'autres textes qui nous parlent du moment où toutes les nations seront devant l'Éternel. Et Dieu séparera les brebis des boucs. Et il dira aux brebis, rentrez, et aux boucs, dehors. Dieu fait une sélection. Mais cette sélection est liée à la nature de notre personne. Est-ce que j'ai revêtu la nature de Christ ou est-ce que je suis resté avec mon ancienne nature ? Vous savez, cette ancienne nature qui faisait de nous ce que nous étions et qui malheureusement n'a pas changé et que nous restons toujours les mêmes. Mais peut-être on porte une petite étiquette. Chrétien. Alors vous savez, ce que Dieu attend au ciel, ce n'est pas des chrétiens, hein. C'est des croyants. Ce que Dieu attend dans le ciel, ce n'est pas quelqu'un qui se dit « mais tu vois, je fais ceci, je fais cela », ça, ce n'est pas important. Mais c'est de voir si finalement, en nous, il voit l'image de son Fils, Jésus-Christ, parce que c'est son image en nous qui finalement nous ouvre la porte du ciel. Quand la parole de Dieu nous parle de ceci, il nous dit tout cela pour nous avertir. Et il nous dira au verset 12, « Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » On pourrait se dire, « Ok, pasteur, le message de ce matin, ce n'est pas pour moi. Peut-être pour les autres. » Les meilleurs pensants diront, « Ah, si ma femme elle avait été là ce matin, ça lui aurait fait du bien le message. » Et les épouses peut-être, « Ah, si mon mari avait été là. Ah, Seigneur. » Bon, pour les uns et les autres, le message sera sur Internet, vous pouvez le réécouter. Mais ce matin, moi, je ne pense pas que le message soit pour les autres. Je pense que le message, c'est pour chacun de nous, et moi en premier, parce que je l'ai entendu avant vous. D'accord ? Où le Seigneur me dit, « Fais attention, Emmanuel, à pas toi aussi tomber dans les murmures. » On peut murmurer. On peut murmurer parce qu'il y a plein d'occasions. On peut dire, voilà, Seigneur, tu vois, je sais pas, l'église dans laquelle tu m'as mis, il y a des têtes dures, il y a ceci, il y a cela. Eh bien, Dieu m'a donné ce que j'avais besoin pour ma sanctification. Non ? Merci, Seigneur. Et c'est vice-versa. Et après, peut-être qu'on pourrait se dire, Seigneur, mais tu vois, on est dans un pays qui est rebelle à ta parole. Mais c'est là qu'il faut prêcher l'évangile. Et après, on pourrait dire, Seigneur, mais tu vois, on est dans un mouvement qui est imparfait. Mais ce n'est pas en murmurant que les choses changent. C'est en te mettant à prière, à genoux. Et peut-être en accomplissant ce que Dieu attend de toi. Il y a plein de choses qui pourraient, personnellement, m'amener à murmurer. Mais Dieu nous reprend. Et Dieu merci qu'il nous reprend. Il y a tellement de choses qui pourraient finalement donner, attirer notre regard. Vous savez, quand on voit à la télévision ou dans des sites internet, des églises, des méga-churches, vous avez vu les méga-churches ? Méga-church. Des milliers d'âmes être là et vous dites, Seigneur, merci. Ah, qu'est-ce que j'aimerais être à la place du prédicateur. Mais là, ce n'est pas ta réussite, mon frère. S'il y a des milliers d'âmes, c'est Christ qui les a sauvées. T'as rien fait, toi. Par contre, que ton cœur soit pur pour pouvoir passer le message et que ce message soit celui que le Seigneur veut. Mais parfois, on peut se dire, l'objectif, c'est ça. Alors, on essaye avec des techniques humaines, on essaye avec des procédés humains, on essaye avec du management. Je parle bien l'anglais ce matin. Mais ce n'est pas ça que Christ nous appelle. Non ? Ah Seigneur, si j'avais plus d'ouvriers. Et Jésus en a pris, excusez-moi, 12 bras cassés. Sauf que ceux qui ont mis dans leur cœur l'action et la puissance de la parole de Dieu. Et parmi ces 12, il y en a un qui a tourné mal. Parce que son cœur n'était pas prêt. Parce que son cœur ne s'était pas laissé transformer par le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à veiller. Et il dira, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà. Alors vous savez, certains textes parlent de la tentation, d'autres parlent de l'épreuve. L'une et l'autre peuvent nous faire tomber. Les tentations, c'est ceux qui viennent de l'extérieur en essayant d'amorcer quelque chose qui est à l'intérieur. Et vous connaissez le texte de Jacques qui dira que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente » car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté par ses propres convoitises parce qu'elles l'attirent, le séduisent, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Jacques chapitre 1, verset 12 à 15. Il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient chatouiller quelque chose qui est à l'intérieur. Mais si ce qui est à l'intérieur, il n'y a plus rien à chatouiller, de l'extérieur tout peut venir, mais ça ne fera aucun effet, non ? N'est-ce pas ? Alors il parle de l'épreuve. Seigneur, l'épreuve, la difficulté, c'est quelque chose qui meurtrit l'extérieur, qui meurtrit aussi l'intérieur. Alors pour moi, dans l'expérience que j'ai pu en faire, dans l'épreuve, il y a une chose qui me permet de tenir debout. C'est Jésus. Lorsqu'on dit au Seigneur, Seigneur, tu vois, cette épreuve, elle est difficile. Seigneur, tu vois, c'est pas juste, il y a des choses qui nous arrivent, c'est pas bien, c'est pas normal, c'est pas juste. Et quand je regarde à Christ, Paul dira à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Et lorsque nous mettons Christ au centre de notre vie, pas seulement il sera dans le centre de notre vie ici-bas, mais aussi pour l'éternité. Alors ce matin, est-ce que le passé est suffisamment, excusez-moi, accablant pour nous faire travailler pour un meilleur avenir? Est-ce que nous désirons marcher avec le Seigneur en nous gardant de tout ce qui n'est pas bon? Alors peut-être que certains ce matin se diront, je ne suis pas trop concerné par le message, tant mieux pour toi, mon frère ou ma sœur. Mais la parole de Dieu, souviens-toi, elle dit que celui qui pense être debout prenne garde à ne pas tomber. Mais si ce matin, il y a quelque chose qui te reprend, quelque chose qui finalement, pas seulement te reprend par rapport à ton salut, mais même à ta relation avec le Seigneur. Parce que dites-moi sincèrement, est-ce que quelqu'un qui murmure peut s'attendre à que Dieu lui réponde aux prières? Est-ce que quelqu'un qui vit dans l'idolâtrie de tout ce qui l'entoure, est-ce qu'il peut finalement se targuer de dire, moi je peux te demander à Dieu, je suis enfant de Dieu? Vous savez, il y a des chants aujourd'hui qui veulent tout dire et rien dire. Je sais qui je suis ceci, je suis cela. Et le Seigneur te dit, je ne te connais pas. Parce qu'il n'y a pas mon empreinte, mon sang ne t'a pas couvert, tu n'as pas été purifié, tu n'as pas été transformé. Tu parles et tu agis comme quelqu'un dans le monde, je ne te connais pas. Non? Est-ce que quelqu'un qui vit dans la débauche, est-ce qu'il peut s'attendre que Dieu l'écoute dans ses prières? Je serais étonné, personnellement. À moins que sa prière soit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je viens avec un cœur repentant. Seigneur, je veux mettre fin à cette partie de ma vie. Et ce matin, moi je crois que le Seigneur, s'il nous appelle, c'est justement pour que nous puissions changer le cours de notre vie. Non pas en regardant à droite ou à gauche, non pas en regardant aux uns aux autres, mais en regardant à nous-mêmes. Alors je voudrais vous inviter à fermer vos yeux et incliner vos têtes. Seigneur, lorsque ta parole elle nous interpelle souvent, elle nous amène par un cheminement qu'on ne comprend pas toujours. Parfois, on pourrait avoir le sentiment que cette parole ne nous est pas adressée. Peut-être que cette parole, elle est bien pour quelqu'un d'autre, mais pas pour nous. Mais lorsque nous faisons appel à ton esprit, mais lorsque nous nous plaçons devant toi, Seigneur, finalement, cette parole se révèle pour bien des points et bien des sujets qui nous touchent de manière personnelle. Seigneur, là où nous avons laissé d'autres choses prendre la place qui te revient, là où nous avons laissé d'autres choses prendre le temps qui te revient, là, Seigneur, où nous avons cédé à un type de langage, Seigneur, qui est destructeur, qui est, Seigneur, le langage de ce monde, qui est le langage de l'accusateur, Seigneur, celui qui accuse ses frères, celui qui accuse l'action de Dieu, le peuple de Dieu, l'avancement du royaume de Dieu. Seigneur, et on pense avoir le droit de le faire, Seigneur, garde-nous, s'il te plaît. Garde-nous d'avoir de tels propos. Seigneur, garde-nous aussi de tomber dans le piège de mépriser ta parole, de ne pas l'écouter, de ne pas la garder pour nous, pour notre cœur, Seigneur, en pensant que c'est toujours pour les autres et jamais pour nous. Seigneur, garde-nous parce que ces pièges, ils sont là et l'ennemi fait de tout pour que le peuple se détourne de ta parole. Seigneur, ta parole nous dit que le peuple se meurt par manque de connaissance. Faute de vision, le peuple se meurt. Seigneur, tellement de pièges autour de nous, Mais ce matin, Seigneur, nous voulons te dire encore, viens nous libérer de tous les pièges. Viens encore ce matin, Seigneur, purifier notre cœur, purifier nos bouches, nos oreilles, nos yeux, purifier nos mains, Seigneur, purifier nos corps, purifier nos pieds, Seigneur, pour que nous allions, Seigneur, dans la bonne direction. Seigneur, garde-nous, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, à nous tenir debout, jusqu'au bout. Seigneur, non pas en méprisant ceux qui sont tombés, mais en tendant une main pour les relever, car c'est à cela que tu nous as appelés. Non pas, Seigneur, pour juger les autres, car c'est toi qui es le seul juste juge. Mais Seigneur, nous voulons encore ce matin te prier de faire grâce, de faire preuve de patience envers ton peuple. Seigneur, merci, merci d'être celui qui encore ce matin vient, Seigneur, et nous accorde, Seigneur, cet élan de sagesse, de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens, Seigneur, et que ton nom, Seigneur, soit inscrit dans nos cœurs à tout jamais. Amen. Amen. Béni soit Dieu.